Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce dimanche matin. Il nous manque encore Christopher Priest sur cette table ronde, mais sans doute va-t-il nous rejoindre assez rapidement. Voici une table ronde qui va s'intéresser aux réalités changeantes de la science-fiction européenne. Alors, vous le savez peut-être, évidemment, historiquement, il y a eu une grosse influence, une grosse prédominance de la science-fiction américaine en Europe. Et puis tout cela, à partir des années 90, s'est ouvert. Et en France, en plus, à partir des années 2000, on a eu aussi l'apport de toute une vague de science-fiction italienne, espagnole et allemande, notamment, que vous avez peut-être pu croiser aux Utopiales avec certains auteurs comme Juan Miguel Aguilera ou Andreas Eschbach. Nous avons une table ronde avec différents intervenants. On va s'intéresser à différents pays, à la situation. Tout d'abord, sachez que certains de nos intervenants parlent anglais. Donc, si vous avez besoin de traduction, il y a des petits casques qui vous sont disponibles gratuitement pour que les traducteurs puissent nous aider à tout bien comprendre. Premier d'entre eux, je vais parler de Francesco Verso. Francesco, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il est éditeur et auteur italien. Côté roman, j'ai noté Idol, Blockbuster, Livide, et le dernier que je ne me hasarderai pas à prononcer en italien. C'est aussi le créateur du label Future Fiction. On a un petit peu échangé hier ensemble. Il fait pas mal de choses sur le numérique, donc peut-être qu'on pourra en discuter ensemble. Juste à ses côtés, Paul Carta. Paul Carta qui nous vient de Nice, romancier. Alors, parmi le dernier ouvrage, on peut citer notamment La quête du prince boiteux. Et puis, on parlera peut-être de l'échiquier des étoiles et une vision un peu particulière des extraterrestres. On se demandera si elle est plutôt européenne ou américaine. À ses côtés, nous avons également Anthony Valla, enseignant en sociologie et philo en Suisse, qui a fait un petit essai en numérique sur Asimov et puis qui a dirigé une anthologie d'auteurs suisses. Et voici Christopher Priest.
Just in time.
Do you need something to translate? Yes. Pendant que Christopher s'installe, je vais évoquer Aliette de Baudard. Aliette, dont on a pu lire le premier tome de sa trilogie sur les chroniques aztèques. Le nouveau s'appelle The House of Shattering Wings. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Aliette qui a la particularité donc d'écrire en anglais, d'être édité d'abord en anglais, et qui a notamment gagné le Locus et le Nebula, ce qui ressemble à une espèce de fantasme pour tous les auteurs français et du monde entier. Et puis Christopher Priest qui nous a rejoint, anglais, lui, pour, je vais citer que quelques-uns de ses nombreux et grands romans, notamment L'Adjacent, Le Prestige, La Séparation, Les Insulaires, L'Adjacent qui vient tout juste de sortir là maintenant. Alors, plusieurs auteurs, plusieurs pays. Je vous propose peut-être qu'on s'aventure dans chacun des pays, qu'on fasse un petit tour de la situation et de la prédominance américaine par rapport aux auteurs anglo-saxons. Et puis après, on ouvrira aussi avec Paul et Aliette sur des expériences un petit peu différentes et des visions un petit peu différentes. Francesco, peut-être que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe en Italie. Est-ce qu'on lit encore beaucoup d'auteurs américains ? Est-ce qu'il y a des auteurs italiens de science-fiction qui leur tiennent la dragée haute, entre guillemets, en tout cas qui ont une notoriété équivalente ? Comment ça se passe ?
Yes, in Italy, the situation is more or less like in Europe, the dominance of the US titles and authors is very, very big. It's I think around 65-70% of what is published is translated from English. It might change in due to year and years, but normally it's like that. So the situation, especially in the science fiction genre, it's like that by definition and for a very long time. There have been moments when we try to gather the forces and try to propose our books, our stories. The thing is that for a very long time we've been subject to our own greatness, in the sense that we were trying to look at the past instead of looking at the future. So we were writing about the Roman Empire and set it some thousands of years ahead. Now with the internet, with access to a lot of information, the gap between the scientific information that we can access between Italians and the rest of the world, let's say, it's less and less. So also the novels are reflecting this improvement. There are writers that do write about quantum physics, about biotechnology, about alternative realities. And so the situation is improving, but in a generally decreasing market in as we see it in all the publishing sector. So we try to compete in a good way with the major masters, and what I try to do, for example, is running a small cultural project called Future Fiction, which is a definition by Anthony Burgess that was given in the preface of his book, The Wanting Seed and A Clockwork Orange. And I try to scout underrepresented voices from Europe and publish them. We publish people from Greece, Michalis Manolius, we publish Christian Teodorescu from Romania, I publish Tom Crossfield from Latvia, I publish Olivier Paquet from France. So we put them all together on the same shelf, together with Ian MacDonald or James Patrick Kelly from the UK and the US, saying that we can't stand all together. So the situation now is improving. We are improving our English. That means that we can control the translations much better, and we try to offer. I try to collaborate also with European projects like Europa SF, which is a science fiction portal that giving information about conferences and awards and authors and what's going on in Europe. Because one of the things that we do miss in Italy, and I guess we miss it everywhere in Europe, is a network of information between all the professionals that are working in the science fiction genre.
Anthony, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait suisse? Là, on l'a compris qu'il y avait des opportunités en ce moment pour des auteurs italiens après une domination, tout du moins dans le nombre de livres publiés. Comment ça se passe en Suisse exactement?
Alors, évidemment, nous, on est à 1,5 million de Suisses francophones, en fait, en bordure de la France. Donc, il y a une ou deux spécificités, peut-être, la science-fiction suisse-romande. Je veux que je connais très mal la science-fiction suisse-allemande. Il y en a probablement un petit peu, mais je la connais assez mal. En gros, les auteurs suisses romans sont souvent quand même publiés en France, donc c'est compliqué peut-être de spécifier une science-fiction qui serait typiquement romande. Encore qu'il y a eu un travail qui a été fait dans un livre fait par Jean-François Thomas il y a quelques années qui s'appelle Les défricheurs de l'imaginaire, où il a montré que le thème de l'utopie était un peu plus marqué peut-être en Suisse romande qu'en France dans la science-fiction. Là, en ce moment, l'année prochaine va sortir une anthologie de nouvelles suisses, comme ça, qui va sortir chez un éditeur qui s'appelle Iselas, et qui va aussi lancer une collection de science-fiction suisse. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Une autre spécificité peut-être de la Suisse romande, c'est la Maison d'ailleurs, qui est un musée qui se situe à Yverdon et qui est, je crois, le seul musée européen de la science-fiction et qui a pratiquement l'intégralité de la collection des livres de science-fiction publiés en français, qui a je ne sais pas combien de pièces de toutes sortes. Et au départ, c'est Pierre Versin, celui qui a fait l'encyclopédie, dont le titre m'échappe juste là, qui a légué effectivement sa collection à la ville d'Yverdon et on en a fait un musée qui fonctionne plutôt bien. C'est devenu un peu le troisième musée vaudois en termes d'affluence depuis quelques années. Bon, je peux en parler parce que je suis au conseil de fondation du musée. Et donc là, c'est aussi une espèce de spécificité suisse-romande qui fonctionne bien. Il y a aussi pas mal de liens avec les écoles techniques du canton qui collaborent plutôt bien avec ce musée et plutôt bien avec l'université en termes de science-fiction. Donc voilà un peu les spécificités que je pourrais dire pour l'instant. Et après, bon, je pourrais revenir là-dessus plus tard.
Christopher Priest, quel est le lien entre, enfin, avec tout du moins les auteurs américains en Angleterre ? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les auteurs anglais et les auteurs américains, en tout cas dans l'édition et dans la réception publique ? Ou est-ce qu'au final, vous n'y faites pas attention ?
Hello. First of all, am I speaking here? First of all, apologies for being late. Wasn't my fault, honest. You have to look at the whole global position of publishing to understand the influence of the Americans. Publishing is essentially, I hate to say it, dominated by the English language. The English language is the biggest book market in the world, and you can't gainsay this. You can't argue it. It's huge. We've got not only many large English-speaking countries like Australia, New Zealand, Canada, but also many countries in Northern Europe in particular buy English language books in large numbers. And so the dominant language in publishing is English. The dominant country in English is the USA. So it's going to be natural that the American books, American writers, seem to dominate the publishing world. It's not just science fiction and fantasy, it's all kinds of books. Now, next thing is, what is America? Now, the thing about America is, it's an exciting, innovative place. It's full of ideas, it's full of changes and interest in the future, and so science fiction has come naturally to them. And we get the best, probably the best known and the best science fiction has come from the USA in the past, traditionally. Also, some of the worst science fiction has come from the USA. It's inevitable. You get the good and the bad. But then that's true of everywhere. It's just that in Britain, for instance, we have some good writers and we have some bad writers, but there aren't as many of them. So they're not as important. For me, the particular interest is that there is a real difference between the English written by Americans and the English written by British people. They're like two languages. They look the same. Oscar Wilde once said that Britain and the USA were two countries divided by a common language. And that is always true. A lot of the books which are written in Europe and get translated are, for economic reasons, for commercial reasons, translated in the USA. So many of the books we read by French writers have kind of funny French slang in it, you know, funny American slang, which doesn't really work very well. And that brings me to the real subject, which is to what I've always tried. I've been coming to France now for around 40 years, speaking to fellow writers and seeing what's going on here. And I always leave France with the same feeling that there's so much going on here that is unknown outside France or the immediate French-speaking population. And it's true in Italy, too. I've been to Italy, and I've seen just the same problem there. And what every writer should concentrate on doing is trying hard to get books into English, because once you're into English, the door's open. You can then start translating into other languages. It's very difficult to get a French book translated into Swedish. However, there are dozens of translators who can translate English into Swedish and vice versa. So it's an unfortunate reality, but what I would always urge European writers to do is to think of the English language market and do everything you can to get the books over to English, because then the door's open. I know it's difficult, but the best way to do it, in my view, is if you have a book which you think you can get into English, is to get a part of it translated into English. Pay for it. Get an English speaker, a native English speaker, preferably somebody who has some experience of literature, to translate a part of the book for you in English. You've then got something to show publishers in Britain and America. Because I assure you, the British and American publishers are extremely insular, and they are very reluctant to read anything in any language that's not English. So that's what I would say. So it's an embarrassing situation. I always feel embarrassed when I come here. I mean, I meet my equals, people who are at my level of, the same level of writing, the same level of career, and I'm published in France, but they're not published in England. And I think that's really unfair and probably detrimental. We were talking about Iredale, who died last week. And he was a great writer, but he was never published in English. And there's something that's lost to the world because the rest of the world doesn't know about Iredale. The French understood him, nobody else did. And that to me is a tragic situation.
But aren't in this way continuing this system, giving more to the English language? I mean, they are eating all the stories. I mean, you're suggesting, of course, in a very right way, to have our stories translated. But in this way, we are feeding again the English monster. he will continue to strive. Yeah, I think there is no easy way out. I'm seeing, for example, the Chinese language is coming out strong with, it is a kind of cultural battle going on. I mean, Liu Qingxin has just won the award. He's been lucky to be translated by Ken Liu, but we will see more things coming from the East, also because of the influence of China, of course, and the language they speak.
Aliette.
En fait, sur Three Body Problem, je voulais juste faire la remarque que un des gros obstacles, comme mentionnait Chris, d'être publié en anglais, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut faire payer la traduction et que les éditeurs anglophones n'ont juste pas l'habitude de ça, en fait. Ça ne fait pas partie du budget. Donc quand ils vont voir le département marketing et qu'on leur dit « En plus, il va falloir payer un traducteur », « Ah bah non, ça va coûter trop cher ». Et du coup, ça devient un boulet tout de suite au pied du livre. Et le Three Body Problem, la traduction a été payée par une agence du gouvernement chinois qui promeut le rayonnement culturel chinois. Donc je ne sais pas s'ils prévoient de faire plus de choses comme ça avec d'autres livres qui seraient des classiques de la science-fiction en Chine. Mais c'est sûr que c'est un gros avantage quand, du point de vue de l'éditeur anglais qui est « bon bah ça y est, ça, c'est fait ».
On voit souvent dans l'édition, en fait, sur certains pays, évidemment pas les pays anglophones, mais effectivement les gouvernements qui mettent un petit peu la main à la poche pour aider à la traduction de certains livres. Aliette, toi qui as vu le monstre américain de l'intérieur, entre guillemets, peut-être tu as commencé à le dire, on parle d'influence américaine, mais en ont-ils conscience? Et est-ce que toi, tu te sens une Européenne qui écrit de la SF en anglais à destination des Américains, ou est-ce que tu n'y fais pas vraiment attention?
J'y fais vraiment pas attention. En fait, honnêtement, j'ai commencé à écrire de la SF parce que j'ai commencé à lire de la SF quand j'habitais en Angleterre. Et donc, je l'ai lu en anglais. Et j'ai continué à écrire en anglais. Donc, comment dire? Quand j'écris, j'y fais pas vraiment attention. Après, c'est quand même vraiment difficile d'ignorer le fait que dans la salle, il y a le mammouth qui écrase un peu tout le monde des États-Unis et que, comme toute jolie hégémonie culturelle, ils s'en rendent même pas compte. C'est ça qui est dramatique. C'est je vais pas trop mettre les pieds dans la controverse, mais cet été, donc il y a eu les Sad Puppies pour les Hugo, donc qui est une faction ultra de droite aux États-Unis qui ont décidé que la science-fiction progressive, oulalalala, non, on veut revenir aux années 50, à l'âge d'or de la SF, et ils ont commencé à avoir des batailles sur Internet. Et la plupart des gens qui étaient à l'extérieur des États-Unis qui regardaient ça ne comprenaient pas, parce que c'est quelque chose qui est vraiment entre deux factions politiques libérales et pas libérales des États-Unis. Mais vu de la fenêtre, par exemple, de quelqu'un qui habite en France, c'est « excusez-moi, il y a deux factions de droite qui sont un peu en train de se taper dessus et je comprends pas trop ». Et c'est vrai que c'est très compliqué de les faire se rendre compte qu'en fait, c'est pas naturel pour eux, c'est complètement naturel d'écrire en anglais, de vendre des droits de traduction. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un déséquilibre, en fait. Ça ne leur vient pas à l'esprit que quand vous habitez en France, quand vous habitez en Italie, quand vous habitez en Roumanie, c'est super difficile de passer dans l'autre sens. Et pourtant, les faits sont là, quoi. Je crois que c'est 50% du volume des traductions dans le monde qui sont de l'anglais vers une autre langue. Et d'une autre langue vers l'anglais, je crois que c'est quelque chose comme péniblement 3%, ou quelque chose comme ça, des bonjours. Donc, c'est massif.
Oui.
Actually, one of my great pleasures is seeing two right-wingers beating shit out of each other.
You're an unkind man.
Yes, so we were very happy with that. But now I was going to say about my personal experience, but this may surprise some people here. The novel I'm perhaps best known for in France is Le Monde Inverti. When it was published in England some 40 years ago, it came out to non-existent. The market wasn't interested. It got poor reviews, and I felt really depressed. It then was published in the USA, and it released The Hounds of Hell. It got such really negative reviews. It was... no one liked it, everyone hated it, but the New York Review of Books actually published a review which said, I don't know why these British writers keep writing science fiction. We've got perfectly enough good writers here. We don't need anyone coming in from bloody England, you know. And so, and then, very fortunately for me, about 4 months later, the book appeared in France and saved me from suicide because... The French have always understood that book, and so it's. But the point I'm trying to make is that really, when you're talking English language, there are two cultures. They're very important. The American culture and the British culture are quite different. The languages are different. Sensibilities are different. The traditions are different, and they're not hostile, but they are different. And I was so interested in what you said about the Chinese, because by God, in the next 10 years, we're going to be talking about the Chinese domination of literature.
On va justement, là on a beaucoup parlé des Américains, on va se rapprocher un petit peu de nous et de l'Europe et se poser certaines questions. Paul, quand tu écris, alors peut-être parle-nous un petit peu de tes influences. Sont-elles américaines? Sont-elles françaises? Sont-elles d'autres pays?
Quand j'écris, que ce soit de la fantasy ou de la science-fiction, il est évident qu'on ne peut pas ne pas lire des Américains, des Anglo-Saxons en général. Et effectivement... dans la thématique du débat, c'est vrai qu'on va se raccrocher effectivement aux grands anciens comme Asimov, comme Heinlein, mais aussi en fantasy avec Vance. Mais on a aussi une culture de la fantasy qui est très très ancienne en France aussi. Si on remonte à Chrétien de Troyes, si on prend ne serait-ce que la chanson de Roland et le roman d'Alexandre et tout ce qui est sorti en littérature, il est normal que nous soyons aussi un pays de fantasy, de la même manière que les Anglais en Mallory, etc., etc. Tristan et Iseult est une histoire pan-européenne. La chanson de Roland aussi, en Sicile, il continue à jouer la chanson de Roland dans les théâtres de marionnettes spécifiques. Il y a vraiment quelque chose de culturel, vraiment spécifique à la Sicile, parce qu'elle a été sous domination normande, qui ont importé ça. En fait, ces histoires-là, ces histoires de chevaliers, ces histoires de dragons, ces histoires de géants, ces histoires de châteaux et de princesses, font partie d'une culture européenne, et il est logique que dans la fantasy, on la retrouve. C'est peut-être pour ça que nous sommes très médiévaux fantastiques en fantasy. Quant à la science-fiction que j'écris aussi, c'est vrai que généralement, je me tourne vers les grands anciens de la science-fiction, mais le steampunk vient aussi de Jules Verne, donc de toute façon on en revient toujours à ce qui était auparavant dans l'histoire littéraire. Pour moi en tout cas, je ne fais pas de différence, je prends ce qu'il y a à prendre. J'ai un de mes romans à pour héroïne Agatha Christie, et c'est parce que j'adore Agatha Christie, et quand j'écris cette histoire, j'ai essayé vraiment d'imiter et les schémas et le style d'Agatha Christie pour créer ce wooden it un petit peu bizarre qui se passe dans un univers asimovien. Donc je m'intéresse vraiment à tout ce qui peut s'écrire. J'adore Umberto Eco pour parler de l'Italie. Je ne sais pas s'il est traduit aux États-Unis par exemple, mais Umberto Eco, pour moi, Le Pendule de Foucault est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Et oui, je m'inspire aussi de ça, par exemple pour créer L'Échiquier des étoiles, où je me suis beaucoup intéressé à une sorte de mystique sous-jacente au quotidien, comme dans le Pendule de Foucault, et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, je m'inspire d'énormément de choses.
Beaucoup de brassage. Francesco, quel état des lieux en Italie? Il y a une histoire de la science-fiction italienne. Alors, chez nous, on connaît Valerio Evangelisti, par exemple, mais est-ce que les jeunes générations lisent aussi du Valerio Evangelisti? Je pense à Luca Massali aussi, enfin, ces gens que nous, on a traduit. Qu'en est-il aujourd'hui?
Well, today we have to thank Urania Mondadori, which is the greatest Italian publisher, and since around 25 years, they have established a national science fiction award. And Valerio Evangelisti was probably the only writer that from science fiction moved to mainstream and then was, you know, published in many other countries. It doesn't happen quite often. I won twice the Urania Award and I'm still fighting and struggling to... I've been lucky to have one novel translated in English and published in the farthest corner of the globe, Australia, but it's still speaking English. There is a new generation. Of course, we had our own time. We had our own lingua franca, the Latin, where we had the domination of the world, and we spread our culture everywhere in the known world. So now we are, you know, paying. You know, bowing our head to the other masters. But still, there is a young generation of writers that, for example, Tommaso Pincio, they are doing kind of slipstream literary science fiction, let's say. There are Dario Tonani, who's been published in Japan, and some short stories in the U.S., we have Bruce Sterling living in Turin, and he is kind of ambassador of Italian cyberpunk, let's say. So there is a scene, there are even small vanguard, like the Nexialism, kind of group of people that are putting together different kind of disciplines of ranging from quantum physics to biotech and putting them together in nice and good novels. The situation it's dynamic at the moment due to the openness of the digital market. Of course, there is still a kind of discrimination against the Italian writers because they are considered not so good as the American ones. But I do think that this is a kind of prejudice that is driven by the market, the power of the big industry to identify who are the best ones and not the best ones, let's say.
Y a-t-il des spécificités thématiques pour l'Italie chez les auteurs italiens?
Well, as I said, it comes from our history. So whether it's the Roman Empire or the Renaissance, I guess a lot of artists are coming to Italy to exploit our cultural heritage and put it in their own scenario. So from fantasy, the whole Middle Age, it's been from France to Italy, it's been there. The long history of Boccaccio and Dante and going on to Calvino and all these... authors have been using the fantastic as a trope to talk about the present time. So we do have this as a normal setting. You cannot avoid talking about our history. The problem is that I sometimes say that we look at the future with our neck. So we should try to turn around and see what Italy would be like. Well, many of the contemporary Italian writers are seeing a grim and very sad future for Italy. I do understand that is a kind of zeitgeist. It's the sense of the time that we are living in a country that is not, you know, doing very well at the moment. So most of the novels are post-apocalyptic or kind of new middle age where every city is against each other. We do have this many times in novels.
Anthony, un peu la même question sur la Suisse. Y a-t-il des spécificités thématiques suisses ou pas dans la science-fiction?
Là, honnêtement, c'est un peu compliqué à répondre comme question, mais le corpus est extrêmement petit, en fait. Mais si on regarde un peu les récits passés, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, là, le travail de Jean-François Thomas, qui a fait une espèce un recueil comme ça de qui s'appelle Des fricheurs d'imaginaire chez Campiche, à Lausanne. Et en fait, il a repris, il a relu beaucoup de récits de science-fiction du 19e siècle, début 20e siècle en Suisse. Et effectivement, il y a une petite thématique autour de l'utopie, autour de l'expérimentation sociale qui peut-être se dégager comme ça de cette ancienne science-fiction. Par contre, là, de ce qui s'écrit depuis une dizaine d'années, là, non, on aurait vraiment des difficultés à repérer quelque chose qui soit différent de la science-fiction française. Là, honnêtement, je crois pas. Mais le corpus est très petit, donc en fait, on est peu. Enfin, et voilà, j'ai pas tellement plus. C'est difficile de trouver une spécificité, très honnêtement.
Même question pour vous, Christopher. Y a-t-il des thématiques, des spécificités britanniques, une science-fiction britannique avec une histoire britannique?
Trouble is, I'm a writer, and writers never really know what's going on. We don't plan anything. What we think about is the next book and or the current book, and when you hear people talking about science fiction in general, it often is the publishers or the agents or the critics who have more of an objective view from us. I remember at the World Convention in London a couple of years ago, there was a panel called The Future of Science Fiction, and they have four publishers sitting there complaining about the market and saying, you know, people aren't buying books anymore. And I've been in publishing been published for half a century. I have never known a period when they haven't complained about the market and about things going to hell, and they can't get books printed, and they can't afford to do this, they can't afford to do that. And I've never, in that 50 years, known a time when they've said, these are the good times, everything's good, we can buy lots of books and pay you lots of money. They never, ever say that. And so the impression you would get from this panel that they were talking about, just like we are now, was that everyone was going to be out of business in 3 weeks' time. And yet they were speaking at probably the biggest and most successful convention of science fiction that's ever been held, certainly in Europe and probably in the world at that point. It's quite clearly. And look at what's going on here this weekend. Everyone here has come because of a love of books or a love of films or a love of the bande dessinée, that it's alive, it's active, it's intellectually interesting. I don't know what's going on in Britain. I know what's going on in my room, which is at the moment not very much because I just finished a book. But normally I'm sort of doing things, but I don't know what anyone else is doing, and I care, but I don't know.
Peut-être je vais revenir sur une question vraiment plus ouverte. C'est, avez-vous l'impression qu'il y a une science-fiction européenne? En fait, on a vécu beaucoup d'échanges entre la France et l'Italie, la France et l'Espagne, et dans une certaine mesure avec l'Allemagne. Avez-vous l'impression effectivement d'une unité européenne, tout du moins peut-être dans les thématiques ou dans les échanges? Ah. Francesco?
Well, over the last years, I've been scouting not just European science fiction, but also world science fiction. I've been publishing people from Nigeria, from Sri Lanka, from Mexico, from Brazil, from China, and the themes are always the same. You know, the big tropes are those. The difference is the flavor, of course, the tradition. I do think, and that's what I do every single day now, it's that we have to keep the biodiversity of fiction. The danger of having one single voice talking about the present through the future. it's high, and I don't like it. So my personal research goes into the scouting and trying to propose these new voices that are underrepresented just because of a language dominance. It might not be, you know, successful in economic terms, but it is very rewarding in the relationship that I do have with people from over the world, and they see a chance to be visible. Because the biggest problem now is not just being published. Everybody can be published today with self-publishing and new opportunities. The problem is invisibility.
I think there's definitely a European culture. I think there's definitely a difference between Europe and the rest of the world. It's not just languages, it's an attitude, it's an outlook. I find Europe a very ideal condition at the moment. But I think Europe is clearly going to change because of political circumstances. The world is going to change because of the rise of China as an economic and cultural powerhouse. The world is going to change, but I think the European... I don't know how you describe it, really. The word culture is probably the only one. It's strong, it's valid, it's very important in the world, and I speak English, but my emotional and cultural adherence is European. So I don't feel a part of some sort of English hegemony where I feel I'm a part of Europe which speaks English. And all I would say is that... long live it. I think it's a good thing. It's a great civilizing influence throughout the world.
Aliette, en termes de reconnaissance mondiale, le fait d'écrire en anglais, tu as l'impression que c'est plus fort que si tu avais écrit en français, évidemment. Et quelle est ta relation, par exemple, avec les éditeurs français? Est-ce que c'est plus simple ou moins simple, du coup, d'aller vers eux? Avec tes livres en anglais qu'il faut en plus traduire.
C'est une bonne question. Enfin, le problème, c'est que j'ai jamais fait l'expérience d'écrire en français et d'approcher un éditeur français, donc je sais pas à quel point c'est difficile. Je suis pas hyper présente sur la scène française, donc c'est un peu délicat. Après, quand c'est principalement mon agent qui approche les éditeurs avec mes livres, c'est sûr que cet auteur a gagné le prix Nebula et le prix Locus tout de suite, bon, ça en jette, ça fait bien sur le CV, mais quelque part il y a toujours, je sais pas comment dire ça en français, la question qui se pose, c'est toujours mais pourquoi vous écrivez pas en français, quoi? C'est votre langue maternelle, quelque part vous faites un peu une espèce de trahison envers votre culture, et ouais, peut-être, je sais pas.
On évoque une trahison pour toi.
Je l'ai vu passer une ou deux fois. Après, bon, tout le monde a ses opinions.
I'd like to put an interjection that Aliette is doing extremely well in English and is really recognized as a coming star.
Peut-être justement un mot sur ta traduction en français. Hier, tu me disais que tu avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un d'autre.
Oui, bah c'est parce que... Bah, comme c'est moi qui l'ai écrit, donc je l'ai écrit en anglais avec une certaine, un choix délibéré des mots, un choix délibéré de la langue, un choix délibéré des phrases, etc. Et donc quand j'ai vu la traduction française de mon premier roman, traductore et traditore, hein, on peut pas vraiment, on peut faire de son mieux pour rendre de manière fidèle un texte dans une autre langue, mais quelque part il y a toujours le fait qu'il n'y a pas d'équivalence, qu'on va faire des choix qui sont plus ou moins proches de la langue, et du coup c'est vrai que j'ai eu cette espèce de double vision pendant un petit moment avec, oula, c'est mes personnages, c'est mon intrigue, ça c'est sûr, par contre je reconnais pas la langue parce que c'est pas les phrases que j'ai écrites, et c'est bête, hein, mais c'est là vraiment qu'on se rend compte de tout le travail du traducteur.
Un petit mot sur le numérique, justement, pour évoquer ces réalités changeantes de la science-fiction européenne. Francesco, vous travaillez beaucoup en numérique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une chance pour pouvoir traduire, ou tout du moins faire découvrir d'autres auteurs que le marché ne pourrait pas, en papier tout du moins, ne pourrait pas faire?
Well, yesterday night I spoke with Norman Spinrad, and he told me that the original idea of having this festival, Les Utopiales, was to bring together writers, publishers, editors from Europe, from different countries. And every year they would invite some people from different countries. So it is our strength and our limit in Europe to be divided and to be and to feel European, as Christopher Priest said. So I do think that we do have to rebuild or build ex novo a network, because I don't know what's going on in Spain. I don't know what's going on in Germany. I don't know what's going on in Poland or the northern countries. And I think now that there is a possibility to easily share information and knowledge to build this kind of network of small publishing houses that are willing not to just chase the big numbers, but chase a cultural proposal. I do feel that this will be my mission. It is my mission. I feel it. I feel it with a lot of enthusiasm and a lot of energy. It's something that we must do. I don't know if I will be successful. I don't care. As long as I will push it an inch farther. It's rewarding, as I said. You feel that these stories are very, very good. I read a lot of... I've been lucky because also people are gathering. There's a lot of translators from Portuguese, from French, from English, that want to join, from Spanish. They want to join this project because there is a need of this. The people are asking for diversity at the moment. So I'm here to do it.
Christopher?
I know what they're doing in Germany and Spain. They're all plotting to invade Italy.
That's not news. I don't know how many times we've been invaded.
On sent bien chez Francesco cette volonté un petit peu de réunir, ou tout du moins de faire des ponts entre les différents pays en Europe. Est-ce que c'est une nécessité qui évoque quelque chose pour vous? Par exemple, Anthony, toi qui as été anthologiste, ou Paul, toi qui es écrivain, c'est une cause qui fait écho chez vous? Qui veut répondre, l'un ou l'autre?
Je suis surtout écrivain, et c'est vrai que, comme l'a dit Christopher Priest, on est concentré sur le livre qu'on est en train d'écrire, le livre que l'on va écrire. Il y a aussi l'idée qu'on n'est pas seulement un écrivain français ou italien ou européen ou américain, on est aussi un écrivain qui a une spécificité particulière due à ses influences, ses lectures, ses voyages, à ses sensibilités propres. Et donc on n'est pas obligatoirement, je ne sais pas si l'on peut obligatoirement dire d'un écrivain... Si on change le nom, est-ce que l'on va voir qu'il est mexicain, qu'il est espagnol, qu'il est allemand? Est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que changer le nom juste, c'est juste une perception parfois peut-être? Et puis des fois, l'originalité vient simplement de la sensibilité artistique propre à l'auteur. Donc des fois, c'est pas facile. Alors construire des ponts, c'est plutôt l'idée pour moi, dans mon travail, d'essayer de prendre diverses influences, effectivement, et peut-être d'arriver parfois à les synthétiser dans une nouvelle vision, mais je ne suis pas sûr toujours d'y arriver. Dans mon autre travail, puisque je suis enseignant, j'essaye de mélanger au maximum les influences, que ce soit des auteurs anglais ou que ce soit des auteurs français, bien sûr, mais aussi des auteurs italiens, espagnols, américains aussi, d'ailleurs, et d'essayer de donner à mes élèves un large panel d'influences afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes ensuite ce qu'ils auront envie de lire. À part ça, je ne fais pas un travail d'anthologiste ou quoi que ce soit, moi.
Alors, de l'anthologie qui s'appelle Dimension Suisse, que j'ai dirigée pour Rivière Blanche il y a quelques années, un de nos critères, en fait, il fallait que les auteurs habitent en Suisse. Enfin, ils pouvaient être français, habitant en Suisse, et ça allait très bien. Ils pouvaient être n'importe quel citoyen. Il fallait juste qu'ils résident en Suisse à l'époque. Donc, en fait, c'était du coup la porte ouverte, effectivement, à ce que les auteurs ne soient pas spécifiquement en Suisse. Et l'anthologie qui va sortir en février 2016 chez Elis Hélas, là, cette fois-ci, c'est le c'est la thématique. En fait, il fallait que le thème soit la Suisse, mais les auteurs pouvaient être de tout pays, en fait. Et il se trouve qu'on a, effectivement, comme Jean-Marc Ligny, par exemple, qui nous a... qui a mis une nouvelle dans ce recueil, et je crois qu'il y a encore d'autres auteurs qui sont effectivement pas forcément suisses, donc c'est plutôt une sorte de point de rencontre, en fait. Mais voilà.
Mais y a-t-il pour toi une question européenne, comme l'évoque par exemple Francesco dans sa volonté, ou comme l'évoque Christopher en disant « je suis de l'Europe qui parle anglais »
En fait, la Suisse est un peu au cœur de l'Europe, comme ça, où on parle trois langues, on a... Et je pense qu'on se pose pas tellement... Je suis pas sûr qu'on se pose vraiment la question. La Suisse, on se sent à la fois hors de l'Europe, parce qu'on n'est pas dans l'Union européenne et tout ça. Et à la fois, par contre, on est un pays où, effectivement, il y a des gens qui parlent... on a trois langues différentes, l'italien, l'allemand, le français. Et on a réussi à bricoler quelque chose pour vaguement faire un État qui tient un peu la route. Donc, à la limite, on vit européen, mais sans forcément le penser. Enfin, je sais pas... voilà, il y a quelque chose comme ça... Et voilà, je pense culturellement, c'est une sorte de carrefour comme ça. Ouais, on a les influences germaniques, italiennes, françaises, comme ça, qui se cristallisent pour faire quelque chose d'un peu spécial.
On arrive doucement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser à un camarade ? On a Georges devant. Monsieur.
Oui. Une première chose, d'abord pour signaler quelque chose qui cristallise la science-fiction européenne, c'est l'existence des conventions européennes qui regroupent des gens d'un certain nombre de pays et qui créent quelque chose, à mon avis. Sinon, j'avais une remarque à faire sur ce qu'a dit Francesco sur les problèmes de faire communiquer entre les différents pays. En Europe, c'est compliqué par le fait qu'il y a plusieurs langues, mais j'ai repensé au fait, en parlant de l'Amérique du Sud, la situation est la même alors même qu'ils écrivent tout dans la même langue. Il n'y a malgré tout pas de communication entre le Pérou et la Bolivie ou entre la Colombie et l'Argentine.
Francesco, un mot peut-être là-dessus. Est-ce que c'est une question de langue?
There is obviously a problem of language. We have to gather the resources. We have to do what we have. If we don't even try, we're doomed, I think. Obviously, I have a dream. I might say a big word. The dream would be to have four or five small publishing houses that get together and have a European award for an unpublished novel. And the winner would get the translation in four, five languages. I know, you know, but you know, if without dreams, we without imagination, we are left with reality. So, as a science fiction writer, I like to take this path. We are using English as a tool. I get many translations from the best authors in each country, and because they are the best in their own countries, they have short stories or novels translated in English. Africa, they speak English. In India, they do speak in English. In the Far East, they are many times speaking in English. So if I could get easily a Spanish translation. I have found a translator from French, so I cover a whole another big part of the world, from Quebec to north of Africa. They all speak French. So if at least we do have four or five big languages, Chinese, Ken Liu is doing an amazing job in translating a lot of Chinese works into English and making it accessible to the world. I I will translate, I will publish Cheng Yufan, and I publish Xia Jia in Italy. They are completely unknown to Italian readers, and at least I try to bring some voices to the market, and I don't know what will come. But if more people work, something will happen.
Y a-t-il une autre question à poser à nos invités?
Oui.
Madame.
Bonjour, j'ai une double question sur la traduction. J'étais marquée par le fait que Christopher Priest expliquait que pour traverser la Manche, un texte français était en fait traduit en américain et donc se retrouvait un peu dénaturé avec de l'American slang. Et je me demandais si c'était un traitement qui était que pour l'ASF ou c'était en général tous les livres français n'étaient pas vraiment traduits par les éditeurs anglais mais par des éditeurs américains. Et la question, c'est aussi pour Aliette de Baudard. Pourquoi est-ce qu'elle a fait le choix de ne pas se traduire elle-même? Je pensais particulièrement à Milan Kundera, dont on sait qu'il avait repris la traduction de ses textes, parce qu'il en avait marre des remarques sur son style fleuri et baroque qui étaient uniquement dues au traducteur.
I think it was Aliette who pointed out that the cost of the translation is something that British and American publishers don't think about. And when they realize that they're going to have to pay for it, it changes their whole approach to whether or not they're going to print the book. And for that sort of reason, it's often the only kind of writers who can get translated are people like Michel Houellebecq, who can be sure of an American sale and a British sale. And so then there's the American and the British publishers share the cost of translation from French into English. That seems to me to be a problem, partly because it means that the English language version is usually American. You asked if it's unique to science fiction. I mean, the great Argentinian writer, Gabriel Garcia Marquez, he is translated into English by an American translator, and the translations, to my reading, are very weird because they're full of American slang. And I don't believe that's right. I believe that I don't think it should be British slang, but I think it should be a more sensitive translation. I would add another writer I'm very interested in is Roberto Bolaño, great writer, a Chilean writer, who died about 10 years ago. Now, he is translated in America by a woman called Natasha Wimmer, and she does a superb job of translation into a non-specific English. So it's not endemic, it's not always going to happen, but on the whole, translations are dominated by the American market.
Et pour répondre rapidement à la deuxième partie de la question, déjà la première chose, c'est une question de temps. J'ai un travail, une famille, et j'essaie d'écrire dans les interstices. Si on rajoute par-dessus la traduction, ça commence vraiment à plus trop rentrer dans le planning qui est déjà un petit peu à craquer aux entournures. Et la deuxième chose, c'est que je suis pas vraiment une très très bonne traductrice, en fait, parce que j'ai perdu le lien entre les deux langues. C'est l'avantage et l'inconvénient d'être bilingue, c'est que si vous me demandez de traduire un mot du français vers l'anglais, il va falloir que je repasse par une image mentale. Je sais pas, si vous me demandez souris par exemple, il va falloir que je repasse par une image mentale de c'est petit, c'est un animal et c'est chassé par les chats, et retraduire en anglais comme ça, ça devient un peu pénible, quoi. C'est pas super efficace. Il suffit pas d'être bilingue ou d'être très très bon dans deux langues pour être un bon traducteur. C'est vraiment quelque chose de particulier. Enfin, je veux pas dire négativement, hein, c'est vraiment un talent.
Voilà, on est au bout de cette table ronde. On va remercier nos intervenants. Vous allez pouvoir les retrouver tout de suite en dédicace. Merci à vous et merci à eux.
Very much.
Et remercier les traducteurs là-haut. Merci.